Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold on, everybody. Here it comes.
Spotzl, le podcast des cyclistes aventuriers, épisode 72, ici Richard Delhomme. Aujourd'hui, je discute avec Patrick Lamarre et de sa fantastique chevauchée lors de la French Divide avec son fat bike. Si vous écoutez ce podcast depuis longtemps, nul besoin de préciser qui est Patrick. En revanche, si vous êtes nouveau, je vous renvoie à l'épisode 42 où justement je discutais avec le même Patrick de retour de l'Atlas Mountain Race. Aujourd'hui, dans cet épisode, Patrick revient sur l'utilisation et le choix de son fat bike. Également, Patrick revient sur un élément crucial, à savoir le soin apporté aux fesses, élément indispensable pour aller au bout d'une telle aventure. Également, avant de lancer l'épisode, nous venons de créer notre page Patreon. Patreon, c'est un site où vous pouvez soutenir un artiste ou un podcast si vous le souhaitez. Ça marche sous forme d'abonnement mensuel, avec éventuellement quelques avantages. Ce n'est pas spécialement de gaieté de cœur que je lance cela, mais la situation sanitaire et donc ma situation professionnelle est telle que je suis obligé de passer par un appel à contribution pour pouvoir continuer Spotzl. De plus, la nouvelle version de Spotzl demande davantage d'espace serveur, il faut aussi subvenir à ses dépenses. Le lien est dans les notes du podcast, jetez un œil et soutenez si vous trouvez ça cool. Sans plus attendre donc, Patrick Lamarre.
Oui, allô ?
Bonjour Patrick.
Salut Richard.
Alors comment ça va ?
Écoute, ça va, c'est ça, je sortais de la sieste là, donc...
Ben oui.
J'ai eu un petit coup de barre après manger, mais tout va bien.
Ben, je me fais une spécialité des interviews post-sieste, parce que toi, Stéphane... Bon, en même temps, je vous appelle tous l'après-midi, quelques jours après une épreuve, donc c'est un peu normal que vous ayez un petit coup de mou tous après ce parcours.
C'est un peu normal, à vrai dire.
Ouais. Et ça, bon, on va revenir sur ta récup après, mais d'abord, j'aimerais que tu me dises... Alors, tout d'abord, tu n'as pas besoin de te présenter parce que il y a 6 mois, on a déjà fait un épisode ensemble, épisode 42. Donc, ceux qui ne te connaissent pas déjà, je les encourage vivement à aller écouter cet épisode pour en savoir plus sur Patrick. Mais maintenant, j'aimerais bien que tu me dises aujourd'hui, avec quelques jours de recul, si tu t'attendais à susciter autant d'engouement autour de ta participation à la French Divide et surtout l'utilisation de ton vélo, gros vélo.
Ben ouais, j'étais agréablement surpris, comme je disais, il y a eu pas mal de, ça a bien percuté sur Facebook, ça a bien percuté sur la French. J'ai des gens qui sont venus me voir à bord du chemin en disant j'ai su qu'il y avait un FAP, je voulais voir passer le FAP. des gens qui m'ont accompagné, tout ça, c'était
ouais.
C'est vraiment sympa, ça, je l'ai bien vécu. Mmh. Et j'ai perdu beaucoup de temps à discuter, pas énormément, mais voilà, c'est un vélo qui a suscité beaucoup la curiosité. Et comme j'ai dit dans un post ou deux, chaque fois que je croisais un gamin, il ouvrait des grands yeux, il tirait ses parents par le bras, le pantalon, et en disant « Regarde le vélo, le gros vélo ». Voilà. Et j'étais montré du doigt régulièrement dès que je passais dans un village où il y avait des gamins. Et ça, c'était rigolo aussi, ouais. Mmh.
Ah, si ça peut leur donner envie de faire du vélo, c'est déjà pas si mal, après tout.
Ouais, on est d'accord. Donc, du vélo, et pourquoi pas du FAT. Il y a des gens qui avaient vu, que c'est la première fois de leur vie, ils voyaient un FAT. Alors, par contre, à 80-90% des gens, ils pensaient pas que ce soit un vélo musculaire, entre guillemets, un vrai vélo, quoi. Ils pensaient quoi, à relâcher comme ça avec des six gros pneus, c'était un vélo électrique. Et quand je leur dis non, c'est un vélo qui avance avec les mollets, et ils étaient assez étonnés. Voilà. C'était assez sympa. Il y avait des situations assez cocasses et vraiment sympa. Ouais.
Au-delà de tous les commentaires sympathiques, de tous les encouragements que tu as pu recevoir, est-ce que tu as eu quelques sarcasmes quand même sur l'utilisation d'un FAT pour une épreuve telle que la French Divide?
Oui, parce que c'est pas un vélo qui est fait pour la French, hein. Je me suis rendu compte rapidement, mais je le savais puisque j'avais fait la French l'année dernière, que je devais pas refaire forcément cette année. C'est l'épisode Covid qui a un peu chamboulé le calendrier. Voilà, cette épreuve avait été maintenue, donc j'ai dit pourquoi pas la faire, quitte à la faire, autant la faire différemment, parce que je savais que j'étais capable de la faire avec un vélo un peu plus classique. Donc je me suis mis un challenge supplémentaire en décidant de la faire en fat bike. Alors c'est sûr qu'au début, je suis passé pour un original et un doux dingue au fil des jours. J'ai changé un petit peu de statut, quoi. Au CP3, les gens de l'original, je suis passé au gars qui était plutôt putain, ce con, il va y arriver. et j'y crois pas, il va aller au bout. Voilà, donc et puis voilà, puis moi j'avais envie la pratique du FAT, j'adore ça, et j'aimerais en faire plus souvent, et je voulais montrer voilà qu'il était possible de faire ce type de course, enfin, de course de brevet avec un FAT, puisque c'est un vélo qui est fait pour le baroud. Voilà. Le seul inconvénient qu'il y a sur ce vélo, c'est que si on a un souci de pneus, on est vite en galère. Voilà. Et si on ouvre un pneu en deux, on ne peut pas aller au shop du coin et demander un pneu et remonter un pneu. C'est pour ça que j'avais vraiment axé ma préparation là-dessus. Déjà, j'ai eu le support du partenaire Schwabel en pneu qui, lui, a cru au projet, a trouvé ça sympa et puis m'a aidé en me fournissant des pneus. Et puis j'ai pas été embêté avec les pneus, voilà. Même si j'ai une grosse crevaison qui m'a fait très peur, mais voilà, les pneus ont tenu le choc. J'étais même moins entamé jamais que je pensais à l'arrivée. J'ai pas eu de soucis de grippe, d'usure en particulier. Et j'avais prévu bien sûr dans ma trousse à outils de quoi réparer les pneus. Voilà, j'avais beaucoup de mèches, j'avais du latex, j'avais de quoi recoudre le pneu, j'avais de quoi les réparer de l'intérieur avec des stickers pneus. J'avais vraiment à peu près tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et les chambres à air. Voilà. Par contre, je me suis loupé sur les chambres à air. J'avais des chambres à air latex très, très légères. J'en avais deux. Mais quand j'ai crevé, j'ai voulu mettre une chambre à air. Et j'avais un trou, on pouvait y passer un stylo 4 couleurs dedans, hein, donc c'était assez imposant. Quand j'ai mis la chambre à air, ben, la valve n'était pas assez grande et elle ne ressortait pas de l'autre côté de la roue.
Ah.
Elle ressortait de 3 mm. Donc c'était assez compliqué pour aller clipper ma pompe custom. Là, et pour,
mais comment, pour t'as fait, comment tu as fait ça alors?
Allez, ben, donc il me fallait des prolongateurs de valve, que je n'avais pas. Donc j'ai enlevé ma chambre à air, j'ai remis le pneu en place, j'ai regonflé. Là, j'avais la chance d'avoir des bonnes roues que j'avais reçues un peu tard, une semaine avant le départ. C'est pour ça que j'ai pas eu le temps de tester, de m'apercevoir de ce genre de choses. J'ai re-clippé le pneu et j'ai mis deux grosses valves d'inaplug, deux grosses mèches, je veux dire, que j'ai mis en fait sans l'outil d'inaplug, puisque quand je les mettais, elles ressortaient toutes seules. Donc je les ai mis à la main, j'ai poussé avec le doigt, les deux à côté, j'ai remis du latex et j'ai regonflé, voilà, et grâce à la construction des jantes Enville, le pneu, même malgré ma petite pompe, s'est remis en place, a regonflé et ça a tenu jusqu'au bout. Donc ça, ça m'est arrivé après automne. Voilà. Un moment où je retrouvais une forme olympique, je roulais comme sur un XC marathon, comme un fadin, j'étais super bien, et là, paf, j'ai un silex, un bout de ferraille qui m'a ouvert le pneu, j'ai pris une douche de latex et j'ai vraiment cru que c'était la fin, quoi. J'ai passé trois quarts d'heure, une heure à bricoler. Ouais.
Moi, j'ai cru voir passer une publication où tout était, t'avais étalé tout ton matériel au sol et tu racontais que tu avais vraiment une grosse galère de crevaison. Ça, je me souviens, je me souviens avoir vu un truc comme ça.
J'avais sorti le fil, les aiguilles déjà pour... mais j'ai réussi à me dépatouiller sans recoudre et surtout repartir parce que j'ai vu que la chambre à air passait pas, enfin que la valve dépassait pas, je me suis dit ça y est, t'es trop con, tu t'es fait avoir sur un coup simple et pour toi c'est fini quoi. Donc
un prolongateur et comme tu dis, tu as eu des roues Envy super méga top moumoute, sauf que tu les as reçues une semaine avant et t'as pas eu le temps de voir qu'il te fallait un prolongateur que tu aurais emmené sinon.
Ouais, j'aurais pu regarder, vérifier, mais c'est vrai que sur ces chambres-là, les prolongateurs sont déjà très grands, donc c'est vrai que ça m'a pas sauté, ça m'a pas sauté à l'œil, et puis, j'ai failli me compliquer la vie. Ouais.
Est-ce que tu peux revenir, parce que là on parle fat bike, ok, vélo bizarre, mais est-ce que tu peux, pour ceux qui se diraient « Oh là là, je comprends pas bien de quoi il parle », est-ce que tu peux revenir sur les caractéristiques d'un fat bike, s'il te plaît ?
Alors le fat bike, j'appelle ça communément, c'est un gros vélo, hein, c'est la traduction, c'est un vélo gras ou un gros vélo, je préfère un gros vélo.
Avec des gros pneus ?
Voilà, avec des gros pneus, c'est un vélo qui permet de rouler sur la neige ou sur le sable, voilà, beaucoup plus facilement qu'avec un vélo normal. C'est un vélo qui, de par ses grosses roues, flotte en fait sur la neige et sur le sable. Mmh. Et en fonction de la largeur des pneus, le fat commence à 3.8 et peut aller jusqu'à 5.0, voire 5.05. Mmh. Et plus on a des gros pneus, plus on flotte. Et plus on a d'accroche aussi en fonction du profil du pneu, c'est comme n'importe quel pneu. Mais il y a un inconvénient, c'est que sur ce type de parcours, dès qu'il y a un peu de route et des chemins roulants, ben c'est un pneu qui colle, en fait, qui n'a pas un gros rendement. Hein,
mais oui.
Bien connu. C'est-à-dire, pour aller à la même vitesse qu'un VTT, ben je déployais 30 à 40% plus d'efforts. Donc, sur la route, il faut, quand il y a des portions de route, il faut prendre son mal en patience et il ne faut pas essayer de suivre les gars qui ont des pneus un peu plus gonflés et un peu plus fins, puisqu'on y lâche trop d'énergie et on le paie plus tard. Voilà. Après, c'est un vélo qui a un Q-factor qui est un peu plus grand aussi que les autres vélos, forcément. Hein, entre les manivelles, il y a des haubans derrière qui doivent laisser la place à des gros pneus. Donc c'est pareil au niveau du squelette, alignement, genoux et tout, on travaille différemment. Et j'avais un peu peur de ça aussi, sur aussi long, d'avoir des soucis d'alignement au niveau bassin, jambes et tout, mais ça s'est bien passé.
C'est quoi le Q-factor ?
C'est l'espace qu'il y a entre les deux manivelles, en fait. Au niveau du boîtier de pédalier,
ah oui, d'accord.
Le pédalier du cadre plus le jeu de pédalier, je suis à 120 de largeur pour alors le vélo c'est entre 68 et 83. Donc plus les manivelles, voilà, plus les pédales, on arrive à des facteurs qui sont un peu plus généreux. Donc des fois on peut avoir des soucis au niveau des genoux du fait de cet écartement des manivelles. Ouais.
Bah ça change un petit peu comme tu disais, l'alignement, on pédale finalement un petit peu plus vers l'extérieur, je suppose, et ça doit demander un bon temps d'adaptation, même simplement pour récupérer, bon, est-ce qu'on peut parler de force ou de puissance, mais en tout cas pour éviter les blessures.
Ouais, c'était un de mes soucis. D'ailleurs, j'ai beaucoup roulé avec le fat, j'ai fait des sorties gravel entre guillemets, VTT, je suis beaucoup sorti avec le fat 3 mois avant la French pour pour m'habituer en fait, et puis voir si ça allait pas me poser de soucis particuliers. Voilà, ça m'intéressait puisque j'ai prévu des courses aussi longue distance sur neige avec le FAT. Donc ça m'aurait permis de déceler si ça valait le coup ou pas de me préparer pour ce genre de choses si ça avait créé des problèmes particuliers.
Tout à l'heure, tu disais finalement le FAT c'est pas forcément le vélo le plus adapté pour la French Divide. En quoi il est pas adapté?
Bah, il est pas adapté que sur tout ce qui est roulant. En fait, on est à la ramasse quoi. Là, je suis parti. Physiquement, j'étais pas trop mal. J'ai fait quasi 300 km le premier jour. Si j'avais eu un vélo normal avec une bonne pression de pneus comme j'avais l'année dernière là, avec le Cotrot, je pense que j'aurais pu faire plus de 300 km. Après, il y a des périodes comme la Corrèze, où on traverse la Corrèze, il y a beaucoup de routes, où on descend en fond de vallée, on remonte en fond de vallée, c'est sans arrêt des montagnes russes. Là, le FAT, il est difficile à traîner, quoi. Et je me rappelle, avant d'arriver à Lourdes, il y a une portion où on sort de la forêt. Là, il y a trois grosses forêts à passer. On s'est arrêté au petit matin. J'étais avec Loïc Chesnon et Karim Ziani. Là, on s'est arrêté à une boulange. On est reparti. J'ai pas pu les suivre sur le tronçon de route. Donc, je me suis arrêté. J'ai mis 60 coups de pompe dans chaque pneu pour gagner un petit peu en rendement parce que j'en pouvais plus d'être à la ramasse.
Ouais.
J'ai perdu en confort. Le pneu se déforme moins, c'est moins confortable, mais voilà, j'ai gagné peut-être 1 km/h ou 2 km/h de plus. Quoi.
Est-ce que tu as une idée de la proportion route, chemin roulant contre passage chaotique difficile où le FAT se justifie? Et est-ce que c'est vraiment un vélo pas adapté ou est-ce qu'il faudrait peut-être juste une section de pneus un petit peu plus fine, un tout petit peu plus fine?
Non, mais j'étais en 4.0, donc je peux pas faire quelque chose de plus, ouais, de plus fin. C'est un pneu en 3.8, c'est quasi...
Oui, sinon après tu passes sur un VTT, finalement.
Voilà. Et le 3.8, c'est pas trouvable. Du moins, j'ai pas trouvé un pneu avec un profil intéressant. Donc, voilà. J'étais avec les Schwalb Jumbo Gym. Ce sont des pneus déjà légers. Donc, c'est juste, j'allais dire, 1 kg par pneu. Donc, ça, c'est plutôt intéressant avec un profil qui est pas trop pâteau. Donc, ça m'a permis d'avoir un vélo quand même qui reste performant. Après, le fatbike, ça reste un vélo qui est un baroudeur. Voilà. On peut, quand on regarde les vidéos, d'ailleurs, je vous incite à y aller sur le site de Salsa Cycle. Là, on y voit des vidéos de virées baroudes avec des fats. Quand la piste n'est pas tracée, que c'est du vrai cross-country, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chemin et c'est de la brousse ou de la plage ou suivre des passages sur le Yukon n'importe où, là c'est le FAT, il est idéal, il passe partout, c'est un tracteur. Ça c'est intéressant, voilà. Donc c'est pour ça que la French, c'est pas un profil forcément pour le FAT, mais la preuve, il est capable de le faire.
Tu es arrivé en 13 jours et quelques, précisément 13 jours et combien d'heures?
6 heures, je crois.
Voilà. Ça te fait quel classement parmi les finishers?
Franchement, je n'en sais rien. J'allais dire un gros mot.
Tu peux le dire.
Mais
c'est juste pour avoir une idée de combien vous étiez au départ, combien il y a de mecs devant toi et combien tu en as laissé derrière. Parce que, d'accord, tu n'avais pas un vélo super adapté, mais tu n'as pas non plus fini bon dernier.
Non, moi ce qui m'intéressait c'est finir dans les temps, dans les 15 jours. Ouais. Après il y a eu quasi 50% d'abandon sur la course. Je crois qu'il doit y avoir à peu près 50% de gars qui arrivent dans les temps impartis, c'est-à-dire dans les 15 jours. Il y en a qui arrivent après et puis il doit y avoir 40-45% d'abandon, dont une vingtaine dans les 3 premiers jours où on a eu une canicule. De ouf là où on a roulé sous 45 degrés Et on a vraiment souffert. Voilà, il y a même eu un gars, je crois, qui a été hospitalisé pour insuffisance rénale. J'ai eu des nouvelles il n'y a pas longtemps d'un pote qui n'était pas sur la French, mais qui est aussi un, pratique aussi le fat bike. C'est Armel Vrac, qui est un aventurier en fat, qui fait pas mal de choses sympas en Sibérie, tout ça. Lui, il s'est fait, voilà, il est plus à l'aise à moins 30 qu'à plus 45. Donc, il s'est fait avoir par la chaleur. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'il a fallu gérer. Et qui a fait que cette année, même si on n'a pas eu une météo désastreuse, a été quand même une édition difficile.
Donc c'est juste que j'ai du mal à souscrire à ta théorie du le fat n'est pas adapté, mais n'empêche que t'as pas fini parmi les tout derniers. Tu as bien géré ton ensemble. Est-ce que tu serais allé beaucoup beaucoup plus vite? Est-ce que t'aurais gagné 24 heures, disons, avec un vélo entre guillemets plus adapté?
L'an dernier, en étant sur mon premier ultra, ma première freine, j'ai mis 24 heures de moins. Ouais. Avec un vélo, avec une préparation un peu plus adéquate.
Ouais. Ouais.
Et là, ça reste un fat bike qui est quand même préparé aux petits oignons, hein, en termes de poids, de bagages, plus l'expérience que j'avais l'année dernière.
Ouais.
Et je mets quand même 24 heures de plus, même si j'étais moins dans le trip chrono. Donc, ouais, je pense qu'avec l'expérience, la forme que j'avais et puis un vélo plus adapté, je pense que oui, je pouvais aller plus vite. Ouais. C'était pas d'aller vite qui m'intéressait, c'était d'arriver au bout avec un gros vélo. Quoi.
Ouais. Bon, du coup, tu as un petit peu cloué le bec à tous les moqueurs des groupes Facebook qui se moquaient de toi finalement.
Ouais, non, je sais pas s'il y avait de. S'il y avait de la. C'était vraiment de la vraie moquerie, mais.
De la perplexité plutôt.
Ouais, voilà. Les gars se demandaient plutôt pourquoi je m'emmerde à faire ça avec ce type de vélo, quoi. Et j'ai pas su répondre à une question, mais le mec il me demandait c'est quoi le plus dingue, c'est de l'avoir refait une deuxième fois d'affilée ou de l'avoir refait en fat bike. Ouais.
Je crois qu'il y a un proverbe japonais comme ça qui dit l'homme sage monte le mont Fuji, le fou le monte deux fois, un truc comme ça.
Ouais, c'est possible. Je suis pas branché.
tu sais quoi, tu prends ton petit vélo, tu sautes dans un avion, tu vas monter le mont Fuji et tu m'en reparleras après. Voilà.
Ouais, ça, c'est le genre de trip sympa. J'ai vu un reportage il y a pas longtemps là-dessus. Là. C'est sympa. Ça peut être sympa.
Bah,
après, des fous en fait, il y en a d'autres. Hein. On peut citer, il y a Steven Le Yarrick, qui est l'aventurier cycliste là, qui a tenté des choses avec, qui voilà, il m'avait appelé d'ailleurs pour avoir des infos sur ce type de vélo. Il a fait une tentative de traverser en Sibérie sur le lac Baïkal. Il y a Armel Vrac que j'ai passé tout à l'heure là, qui a fait du fat en pulka aussi. Quand on suit un peu le vélo aventure, on s'aperçoit que le fat est quand même présent. Il y a Franz Portas qui est un montagnard là, qui va tenter l'année prochaine de monter sur la Rovaniemi en Finlande avec son vélo, une remorque, et équiper son vélo, faire la course là-bas sur place. Il y a Dominique Guichary qui est très sympa, qui est basque et qui est venu me voir à l'arrivée de la French Divide, qui lui aussi a fait des trips en Sibérie avec son fat bike. Voilà, il y a plein de. C'est une petite communauté en plus assez sympa, assez débonnaire, qui ne se prend pas trop au sérieux et puis voilà qui permet de voilà, moi quand je regarde mon vélo, je m'imagine dans les steppes ou dans la neige en train de pédaler dans des endroits voilà avec le blizzard en pleine face à la gueule, c'est ce qui me fait
t'as le droit d'être vulgaire là, je vois exactement ce que tu veux dire.
Voilà, d'accord. Mais voilà, c'est le vélo, c'est aussi ça, c'est pas tout le temps le cuissard moule burne, la tête dans le guidon et foncer à toute allure vers une ligne d'arrivée. Et je rajouterai en poussant le collègue du coup dans les balustrades et puis en se faisant mettre du 109 le soir dans le bus, quoi. le vélo, c'est avant tout du rêve, de l'évasion, et puis voilà, il faut c'est ce qui fait avancer. Enfin, moi, c'est ce qui me fait avancer, c'est les objectifs. Voilà, même si aujourd'hui on voit pas trop, on a du mal à planifier un calendrier à moyen, court, même long terme, avec ce saloperie de virus qui traîne, mais bon, le rêve est toujours là.
Tu peux rappeler que c'est quoi ton vélo, parce que je maîtrise pas du tout, je maîtrise pas bien, et c'est, comme tu l'as dit, c'est une petite communauté, donc on est très nombreux à ne pas bien maîtriser le FAT. Tu avais quoi comme vélo?
Alors c'est un Salsa Mucluc.
Oui, c'est vrai que t'es très Salsa, toi.
Voilà. Salsa, au début, c'est une marque pionnière en gravel. Elle est pas connue chez nous parce que tout le monde s'est mis au gravel, mais on a un peu chumté les origines du gravel et les marques qui font ça depuis 20 ans. C'est pareil pour le FAT. Moi, je me rappelle, j'avais 20-30 balais. Je rêvais d'avoir un Salsa qui était impossible à avoir en France, quoi. On avait énormément de mal à en trouver. Et un jour, voilà, j'ai pu trouver ce Salsa. Mais c'est le Mucluc. Un Mucluc, ça veut dire, en gros, c'est une botte esquimau qui fait un pot de bête et qui permet de marcher dans la neige et chausser des raquettes ou des skis. Voilà, c'est l'origine du nom. Et c'est un fat bike qui est typé expédition. Voilà, qui permet la monte de gros pneus jusqu'à 5.0, qui a beaucoup d'ancrage pour la bagagerie. Voilà, il y a des FAT un peu plus chez Salsa, notamment un peu plus typés compétition. Et voilà, les FAT Salsa sont toujours au catalogue et l'ont toujours été. Voilà, et c'est une marque qui est pionnière dans ce domaine. Voilà, c'est pas comme la plupart des marques il y a 4-5 ans qui avaient tous un FAT dans le catalogue parce que c'était à la mode et qui désormais n'en font plus. Voilà, ça reste un vélo permanent chez dans leur catalogue, hein. Mais il est possible de trouver d'autres marques, bien sûr, qui font ce type de vélo.
Oui, c'est ce que j'allais te dire. Il y a quelques années, on entendait parler à fond du FAT, ça allait tout révolutionner. Puis maintenant, quand on va sur les salons, on se rend compte qu'il y a il y a plutôt des VAE. C'est surtout ça maintenant.
Ça a duré des ans.
Sûr,
et puis,
c'est surtout ça, oui.
Dans 2-3 ans, on aura peut-être autre chose, mais ça évolue. Après, ça a bien marché parce que c'était un vélo sympa. Il y avait un côté, comme je disais, baroud, aventure, rigolo. Après, les gens se sont aperçus que c'était difficile à traîner quand même, le FAT. Donc, ouais. Et puis, ils n'habitaient pas forcément dans une région. Moi, je suis à Montpellier, c'est bizarre, j'ai un FAT, mais. Alors qu'on voit jamais la neige, hein. Je suis en pleine.
Oui, mais il y a du sable.
Et ouais, il y a du sable. C'est vrai que je le faisais pas avant, mais je le fais de plus en plus. Je prends plaisir à aller rouler dans le sable, à rendre visite à des potes sur 7 là, et j'ai 20 bornes de plage non-stop là. Et le FAT est rigolo, et tôt le matin ou tard le soir, là, quand il n'y a plus personne. Tu te tapes 20 bornes de plage là, avec les vagues qui viennent mourir à tes pieds. Là. Tu t'arrêtes, tu te mets cul nu, tu vas te baquer à la flotte. C'est la vraie vie. Quoi. C'est vraiment sympa. Quoi. On apprécie ça.
Depuis qu'on échange tous les deux, je suis tes expérimentations avec le matériel et t'es très branché matériel. Et est-ce que tu peux me raconter comment tu as optimisé tout ton équipement, notamment l'épisode des pédales où tu as démonté plusieurs paires pour en faire une paire Frankenstein et gagner, je sais plus, je crois, une centaine de grammes, quelque chose comme ça?
Ouais, en fait, mon expérience, elle a pas abouti parce que je voulais faire une paire de pédales custom. Des Crank Brothers Candy 11, mais en purple, voilà. Donc mais j'ai dû louper un petit épisode ou une cale où il y a un petit intérieur qui devait pas coller au niveau du joint, au niveau du roulement. Donc en fait j'ai fait un essai et puis ça a pas collé au niveau de la pédale, il y a quelque chose qui allait pas, donc j'ai remis mes 11 d'origine. Et j'ai roulé avec, voilà. Après, au niveau préparation du vélo, Je lis beaucoup, j'ai beaucoup fouillé dans les comptes rendus, les expériences outre-Atlantique, voire outre-Pacifique, en Australie, Nouvelle-Zélande, pour à peu près tout le matos. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir tester beaucoup par l'intermédiaire du shop, là, WeSpirit.fr, et puis comme je fais parfois quelques papiers, quelques articles avec Endorphin Mag, etc. Mmh. Ça me permet d'avoir une bonne approche et tester du matériel. Voilà. Et notamment j'ai bien progressé au niveau de la selle, puisque j'ai roulé cette année d'ailleurs avec une SQLab 612, hein, qui m'a permis d'arriver au bout sans forcément, sans avoir mal au cul, sans me défoncer le cul. Et quand on roule et qu'on n'a pas le cul défoncé, mais par rapport à l'année dernière, le vélo, c'est autre chose. Hein. J'avais un vélo qui allait moins vite, mais quand on a le cul qui va bien, c'est tout autre chose. Voilà. Ça, je pense que c'est une des priorités à caler, quel que soit le vélo. Mmh. Il faut trouver la bonne paire cuissard-selle et pour pouvoir rouler confortablement. Voilà. Surtout avec quand il a fait très très chaud, etc. Voilà, faut bien gérer ça pour pouvoir aller au bout sans trop souffrir. Voilà. J'ai vu des photos comme disait vulgairement, des photos de cul, mais qui n'étaient pas des photos de cul comme on peut croire, mais des photos de cul bien entamées sur la course, hein, où les gens allaient à la pharmacie avec la photo de leur cul en disant « Madame, j'ai un petit souci, qu'est-ce que je peux faire ?» J'imagine la gueule de la pharmacienne, mais il y avait des trucs pas beaux à voir. Et ça c'est vrai qu'avec la chaleur et tout, il fallait les gérer. Et puis, éviter le pire, quoi.
Ouais. Alors, c'est quoi le pire sur une blessure à la fesse?
Bah, c'est des plaies qui deviennent quand la peau est attaquée et puis que les plaies deviennent un peu profondes. Voilà, ça peut être au niveau du périnée, ça peut être au niveau du fessier, ça peut être au niveau des jointures, voilà, et ça devient vraiment très douloureux. Et moi, je me rappelle l'année dernière, j'ai fini avec deux cuissards, et il y a Loïc Cesbron, là, cette année, il a roulé, je crois, deux jours quasiment danseuse. Et voilà, qu'on ne peut plus poser le cul, c'est assez terrible.
Ouais. Et le reste de ton équipement, bah, les vêtements, c'est plus, bah, à part le cuissard, bien entendu. Mais est-ce que tu as, au fil des mois, de ton expérience de l'année dernière, également de ton expérience très enrichissante, sur l'Atlas, qu'est-ce que tu as modifié par rapport à ton approche?
Au niveau vêtements, rien de particulier. Je me suis forcé à mettre un peu de crème solaire cette année aussi, parce que c'était par rapport à la protection à la chaleur. J'en parlais ce matin à un gars qui justement avait des soucis de déshydratation. Outre le fait de beaucoup boire, il faut s'asperger dès que possible, hein, dans le cimetière, mettre la tête sous l'eau, se mouiller le maillot. J'avais même acheté des en pharmacie, ce qu'on appelle des sores, c'est des solutions de réhydratation orale. SRO, voilà. Qu'on peut filer parfois aux gamins quand ils ont une diarrhée, voilà, pour éviter des déshydratations. Ça, ou des pastilles qu'on trouve dans le commerce pour apporter des sels minéraux en plus. Voilà. Moi, j'avais bricolé mon casque avec un couvre-nuque façon Sahara, pour protéger la nuque. Donc je mettais de la crème solaire plus le couvre-nuque accroché au casque. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Et après, il faut changer de cuissard, essayer de le laver, parce qu'on y dépose beaucoup de poussière et de sel dans les cuissards, et ça peut favoriser les irritations aussi. Donc il faut bien se nettoyer le soir. Moi, j'avais des lingettes, voilà, pour se nettoyer les fesses, mettre de la crème réparatrice. Et le matin, quand on part, mettre de la crème à nouveau cuissard pour éviter tout ça.
Alors, c'est marrant, parce que là, tu me dis crème à cuissard, mais il y a deux semaines, Stéphane, après son expérience sur la FreePix, me disait exactement l'inverse. Lui, bon, il rase, Bon, ça nous a suffisamment fait rire. Il rase, mais lui, il évite par contre la crème, justement, qui, selon lui, a tendance à faire une petite pâte qui, avec le temps, devient elle-même irritante.
Ouais, mais après, c'est l'expérience de chacun. Moi, pour le moment, ce processus-là me satisfait. Et ça fait qu'un an que je fais de l'ultra. Moi, j'ai commencé l'année dernière sur la French, donc. Il y a des gens qui roulent aussi sans cuissard du tout, avec des selles cuir. Je pense que je ferai l'expérimentation, mais j'ai pas eu le temps encore d'expérimenter tout ça. Pour le moment, j'ai trouvé une selle qui me convenait, avec un cuissard qui me convient, et on prend pas le risque sur ce genre de choses. C'est-à-dire, Steph, son truc a pas l'air mal, je vais me raser et je vais partir sans crème. C'est, au bout de deux jours, je pense qu'on le regrette rapidement. Donc, je pense qu'il faut tout roder et expérimenter avant de partir.
Ouais, donc la morale, c'est chacun est différent. Les recettes toutes faites telles qu'on les trouve sur les groupes Facebook, bah, ça marche pas. Il y a que l'expérimentation et l'expérience personnelle qui fonctionnent. C'est ça?
Ah mais, oui, mais après, il y a des trucs qui peuvent marcher. Il y a des trucs auxquels on peut ne pas penser et dire, tiens, le coup de Stéphane, se raser et partir sans crème et machin, c'est peut-être pas bête, je vais essayer. Voilà. Mais on n'essaie pas la veille ou l'avant-veille d'une course. Voilà.
Ah bah oui. Effectivement, tu pars pas la veille de. Enfin, t'essayes pas ça sur une épreuve, mais tout est bon à essayer. Mais ce que je veux dire, c'est que y a pas de réponse définitive. On parlait tous les trois avec Stéphane, on aurait chacun. Déjà, on a tous les trois une anatomie différente, une réponse différente à l'effort, et l'expérimentation, c'est la seule chose qui fonctionne.
C'est comme la selle. Moi, j'ai eu la SQLab, la 612 me convient très bien, mais c'est pas pour ça qu'elle va convenir à tout le monde. Voilà. Moi, j'ai un bassin un petit peu décalé. J'ai tout le temps un côté qui ramasse plus que l'autre. Celle-ci a des petits élastomères qui permet de travailler un peu en latéral. Et puis, elle a, d'après SQLab, en fait, il est plus facile de se roder les os du cul, comme dit vulgairement, les ischions, que le périnée. Donc c'est pour ça qu'elle a un effet wave un peu. Elle a l'assise des périnées, des ischions qui est surélevée, ce qui permet d'avoir le périnée qui flotte un peu au-dessus du reste de la selle. Ouais. Et c'est vrai que au niveau des os derrière, ça travaille un peu plus, mais à force, la peau se tanne et puis on s'habitue. La douleur, si elle arrive, est plus facile à gérer que si elle est au niveau du périnée. Voilà. Ouais. Et surtout, elle est moins exposée à la moiteur, au renfermement, voilà, que si elle est vraiment dans l'espace entre les testicules et l'anus, quoi, pour parler. Ouais. Elle est un peu plus aérée, quoi, disons. Elle est pas dans le.
C'est marrant comme on est toujours un petit peu gêné, tu vois, à l'idée de parler de ces zones-là. On est tous un petit peu mince. Comment je vais pouvoir dire ça alors que finalement, y a rien de plus a priori naturel, mais on est toujours un petit peu gêné quand même de parler de cette zone-là publiquement, si on peut dire. Comment tu roulais? Tu notes que je passe très vite parce que voilà, quand même, c'est bon. Comment tu as roulé avant, justement avec cette expérience accumulée de l'année dernière, de l'Atlas, de également ce que tu as fait cet hiver en fait dans la neige. Comment tu as adapté ton entraînement pour avec ces expériences?
Bon, pas à peu près comme j'ai fait du confinement. Déjà, j'ai moins fait de longue distance que l'année dernière, donc j'ai fait beaucoup d'allers-retours au boulot, sur du plat, sur du voilà. C'était un petit peu plus compliqué à préparer. Après, ce que j'ai fait cette année, c'est juste je me suis arrêté que 2 heures la première nuit. Je me suis arrêté quand j'ai eu sommeil, en fait, puisqu'au Maroc, j'ai voulu m'arrêter la première nuit. Et puis, j'ai passé 3 heures à tourner en rond sur mon matelas pour pas dormir et j'ai perdu 3 heures. Donc, cette année, je me suis dit, sur les premières 48 heures, tu roules et quand t'as envie de dormir, tu t'arrêtes et tu dors. Voilà. Donc là, je me suis arrêté, j'ai dormi 2 heures, je suis reparti. Voilà, ça m'a permis de faire une bonne distance. Et je savais qu'il fallait accumuler du kilomètre autant que possible dans le nord, puisqu'après, c'est une course qui ne va pas en s'arrangeant, disons, en termes de dénivelé, de facilité technique. Donc tout ce qu'il y a à prendre est bon à prendre. Voilà. Mais après, moi, je roule vraiment au plaisir. Voilà. Dès que je peux me coller avec un groupe, avec des copains, sur le groupe original Montpellier Gravel, ou avec des copains vététistes, ou quand j'ai un créneau où j'ai envie de rouler, je vais rouler. Voilà. Mais je me dis pas, avant de partir, tu vas faire 20, 30, 40 ou 100 bornes. Voilà. Moi, je roule pas en route du tout, jamais. Hein. Je fais que tout terrain, donc j'essaie de rouler le plus possible, me faire plaisir. Quand j'ai pas envie, j'y vais pas, et voilà, je fais tout. On en avait parlé la dernière fois, je fais tout, j'ai rien de planifié. Voilà.
Ah oui, oui, je me souviens que tu avais eu un haut-le-cœur quand je t'ai demandé si tu faisais du home trainer.
Ouais, ben j'en ai fait pendant 15 jours au début du confinement, mais ça m'a rapidement saoulé. Voilà.
Ouais.
Ouais, il faut que j'ai le vent dans les oreilles et j'entende les oiseaux chanter, sinon je me demande ce que je fais sur le vélo, quoi.
Bah justement, maintenant, bon, même si on est encore bien embêté par ce virus, tu prévois quoi pour cette fin d'année?
Fin d'année, mais j'ai la gravel trop braise, hein. J'espère qu'elle sera maintenue. J'espère aussi, surtout, que j'aurai des cannes un peu plus fraîches et que j'aurai récupéré.
Ça va arriver vite, malgré tout. C'est dans un mois.
Ouais, ça va arriver super vite. Donc, et en plus, j'ai un vélo à préparer pour ce gravel trop braise.
Ah bah oui.
Il faut pas que je traîne. Donc, je pense que je vais commencer à bricoler dès demain. Et ensuite, on a un projet avec Sébastien Lemot, là, qui est aussi de la famille du FAT, puisqu'on roule ensemble en tandem FAT Bike. On a un projet d'aller rouler sur le lac Baïkal en Sibérie, avec une équipe média, pour faire de la belle image. Je vais peut-être avoir un fat bike là, en provenance d'une nouvelle marque là, qui m'a proposé de rouler avec un de leurs vélos pour présenter le vélo un peu sur le sol européen. Donc il y a rien de fait, mais ça va peut-être se faire. Voilà, j'emmènerai peut-être en Sibérie, si on peut aller en Sibérie. Ça me paraît le délai paraît court et ça risque d'être compliqué avec toujours la situation sanitaire. Voilà, j'ai prévu de retourner en Norvège aussi, sur la FAT Viking Race, pour ce coup-ci en solo, pour aller essayer de faire un résultat comme il y a 2 ans.
Ouais.
Et puis retourner au Maroc, voilà, il y a plein de choses en début d'année. Et puis et après, normalement, si tout va bien, c'est la Silk Road Mountain l'année prochaine.
Oh. Mais,
ouais, c'est encore.
Ouais.
C'est encore compliqué. Il faut que j'ai le temps d'aller me préparer, faire un peu de montagne, d'aller faire. Et je ne sais pas si le délai sera assez.
Ouais, faut surtout qu'on soit débarrassé de ce virus et que le Kirghizistan soit aussi débarrassé du virus, parce que là-bas, c'est vraiment la merde.
Ouais. Donc voilà, il y a rien de. Il y a des projets, mais qui sont reportables. Hein, c'est pas.
Oui.
Ça ne sera pas enterré définitivement, si. Mais voilà. Calendrier assez chargé et avec beaucoup d'organisation quand même. Il va falloir se gratter la tête pour que tout rentre, tout préparé. Voilà, parce que faire du vélo, c'est bien. Faire du vélo à l'étranger, c'est plus compliqué. Voilà, il y a une longue. Voilà, je devrais avoir un petit coup de main financier aussi avec un nouveau sponsor l'année prochaine qui va. Voilà, donc. Qui va peut-être me chouchouter un petit peu. Donc j'ai beaucoup de chance parce qu'à l'âge que j'ai pour faire 3 conneries, voilà, c'est pas évident de trouver un coup de main. Mais voilà, quand on arrive à proposer quelque chose d'un calendrier sympa et puis avoir des retours un petit peu, on arrive à se débrouiller. Et puis avec des gens qui ont parfois le même âge, les mêmes rêves, les mêmes ambitions, les mêmes trucs, on arrive à on arrive à se dépatouiller et puis à avoir des coups de main. Parce que tout seul, sans coup de main, j'arriverai pas à faire tout ce que j'ai prévu.
Dis donc, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais pourquoi aller sur le lac Baïkal? Parce que j'ai vu plein, enfin pas plein, mais j'ai vu plein, non plein, je le répète, pas plein, mais plusieurs expéditions ou tentatives sur le lac. Alors pourquoi refaire, pourquoi aller là où d'autres sont allés déjà et médiatiser un truc qui a déjà été fait?
Bon, c'est pas tellement pour médiatiser, c'est pour... C'est un peu une envie d'exotisme, même si quand on parle d'exotisme, on pense plutôt palmiers et plages, mais et noix de coco, mais c'est une forme d'exotisme parce que ça reste
un dépaysement assuré, c'est sûr.
Voilà, ça reste un dépaysement, c'est une découverte. C'est un endroit qui est pas facile d'accès, qui est pas facile. Par contre, c'est un risque. On prend un risque puisqu'il, en tandem, l'intérêt c'est d'avoir, si on veut aller vite, si on veut faire des trucs sympas, c'est avoir de la glace vive. On sait jamais trop là-bas à l'avance si on va avoir de la glace ou de la neige sur le lac. De la glace, il y en aura hein, à tous les coups, forcément. Mais de la neige dessus ou de la glace vive, c'est un peu plus risqué. J'en parlais. Il y a deux jours encore avec Dominique Dichary là, qui est venu me voir sur la fin de la Frangivide. Donc le but du jeu, c'est pas faire un truc extraordinaire, voilà, c'est se faire plaisir dans un endroit exotique et faire des belles photos et puis c'est surtout par rapport aussi à Sébastien qui lui est malvoyant. J'en avais parlé aussi, une maladie qui évolue pas forcément dans le bon sens. Voilà, c'est des choses qu'il a envie de vivre. Et voilà, si moi je peux faire quelque chose pour l'aider, si on peut aller rouler là-bas sur la Black Ice et avoir le vent qui nous siffle dans les oreilles et boire un vodka le soir, je crois que ça sera quelque chose de vraiment sympa, quoi.
Comment tu vas préparer quoi comme vélo pour la gravel Trobres? Tu vas ressortir le cutthroat?
Non, je mets le cutthroat, je dépiote complètement le cutthroat.
Ouais.
Et je vais monter un Otso Waila.
Oula.
Otso, c'est une marque de cadre et vélo qui est fait par la marque Wolf Tooth, avec laquelle je travaille depuis... j'étais le premier, je crois, à vendre les produits Wolf Tooth dans l'Hexagone, avec Louis Spirit. Et ils ont fait un cadre typé gravel, vraiment sympa, où on peut monter des pneus jusqu'à 50 devant, qui a une petite particularité avec une patte arrière qui permet d'avoir des bases plus ou moins longues, et qui a plein d'avantages. Il a pas mal de fixations, il a un boîtier type BSA qui se fixe, il a une géométrie sympa. Alors par contre, je l'ai pris avec j'ai monté une fourche particulière dessus, une Rodeo Lab, voilà.
Oui, j'ai vu passer ça. T'avais l'air tout content d'ailleurs avec cette adaptation de différents diamètres, c'est ça?
Ouais, et qui permet elle a des adaptateurs. En fait, on peut sur la fourche monter soit des axes de 12, soit des axes de 15. Il suffit de changer les plaques. Et ça, c'est super sympa. Donc c'est une caractéristique unique en termes de fourche avec cette marque. Donc d'ailleurs, j'aurai peut-être prochainement un vélo Rodeo Lab aussi. Je suis en train de... Ça peut faire partie des projets. C'est une jeune marque américaine qui est sympa, qui fait de la bonne cam. Donc voilà, avec des... je récupère quasi tout l'équipement du cutthroat, hein, avec le pédalier titane de chez Ken Creek, avec les composants Envy, les roues Styrion. Par contre, les pneus, je vais rouler avec des Schwalbe, forcément.
Eh oui.
Donc, ça sera des... Je cherche le nom. des G1, des Ultra et des Ultra Byte.
En combien? Quel diamètre?
En 50 ou 51, je ne sais plus, je crois que c'est les 50. Ouais.
D'accord.
Ouais, je reste en version en version gros pneu, mon gars, en deçà de 45, j'aime moins le vélo.
Pourquoi?
Bah parce que je trouve que c'est plus rigolo un vélo avec des gros pneus et que ça fait plus. Comme ma priorité, c'est le confort, c'est le grip, un peu le look du vélo. Voilà. Pour rester dans une tendance un peu VTT gravel, j'aime bien les gros pneus.
Ouais. Voilà. D'accord.
Les petits seins et les gros pneus, comme dirait.
Eh ben, tu sais quoi, je vais me faire un t-shirt avec ça. Stoxel, voilà. Des petits seins et des gros pneus. Voilà, nickel.
Et tout va bien.
Ah ouais, non, mais celle-là, j'adore.
Que demande le peuple.
Ah, puis on va se faire des amis chez les féministes. C'est top, j'adore ça. Superbe. Exactement ce qu'il nous fallait. Bon, et dis donc, est-ce qu'on aurait quelque chose à ajouter sur cet épisode du jour consacré à la French, au FAT et à tes projets futurs? Je ne crois pas. Est-ce que tu vois quelque chose que l'on aurait omis?
Non, mais ouais, comme j'ai sur la French, et moi, la French en FAT, je l'ai rêvé, je l'ai osé, et j'en ai bavé, mais je l'ai fait.
Voilà. Ouais.
Et puis j'incite les gens à poser la question, la prochaine French, tu l'as fait à quoi, avec quoi, etc. Donc voilà, il faut oser, et faut se faire des petits paris comme ça, sortir un peu de l'ordinaire, ça me paraît sympa. Moi je suis content d'avoir défendu la cause du FAT, et puis voilà, c'est cool.
Est-ce que on se fait pas tout un monde du matériel? Est-ce que c'est vraiment aussi important que ça? Ou est-ce que on devrait pas encourager les participants ou les potentiels participants, ceux qui aimeraient prendre part à ce type d'épreuve, à foncer avec le matériel qu'ils ont? Je reprends l'exemple de Stéphane qui fait l'Atlas avec son VTT tout pourri, toi qui fais la French avec un FAT visiblement pas adapté, mais n'empêche que ça fonctionne. Est-ce que il faudrait pas désacraliser un petit peu le matériel et rappeler que le succès, enfin si on peut dire le succès, au moins aller jusqu'au bout, c'est une accumulation de facteurs dont le matériel n'est qu'un petit détail.
Ouais, alors faut différencier deux choses. Tu peux faire la fin, je pense, avec n'importe quel vélo si ta caisse le permet. Après, arriver ou pas, c'est une chose. Comme disait Pierre de Coubertin, l'important c'est de participer. Donc on peut tenter, et même si on n'arrive pas, le but c'est d'avoir tenté. Donc, mais il y a le matériel, on peut courir avec n'importe quel vélo. Par contre, le matériel est important. C'est-à-dire on peut faire avec n'importe quel vélo, mais pas dans n'importe quel état. Voilà. Il y a eu encore cette année des gars qui ont abandonné ou un gars qui a eu un souci, qui a perdu 24 heures presque sur une roue libre cassée. Voilà. Il faut du matériel en bon état. Voilà. Quand on part sur la French, il faut avoir révisé ses roues, avoir une roue libre. Je pense à Thomas là où on sait qu'elle va tenir. Il faut avoir une chaîne neuve, des plaquettes neuves, le jeu de pédalier, c'est bien s'il est neuf aussi. Voilà. Si l'autre il est pas pourri, on le met de côté, on le remettra plus tard. Mais il faut partir avec du matériel sûr et solide. Voilà. Il y a un gars aussi qui est parti avec un vélo d'une grande marque. Un peu parfois décrié, et qui avait eu un pédalier bas de gamme et qui a pété son pédalier en deux. Ça peut arriver aussi à des hauts de gamme, mais voilà, c'est pas. Voilà, il faut que son truc il soit révisé, il faut être autonome en mécanique. Voilà, on peut partir avec n'importe quoi, mais avec du matériel sûr quand même. Ça évite des désagréments. C'est dommage d'abandonner un gars qui a pété sa patte de dérailleur. Pendant toute une semaine, je me suis dit, mais j'y crois pas, le gars, il est parti sur la French, il a pas de patte de dérailleur de rechange, quoi. C'est des trucs qui me paraissent ouais, c'est des loupés qui sont pas pardonnables, quoi. On peut pas. C'est tellement dommage de devoir arrêter ou d'abandonner sur un coup aussi simple. Quoi. Tu me diras, moi j'ai bien failli abandonner sur
une crevaison.
Sur une crevaison avec des. Voilà, j'ai pas d'excuses non plus, mais je le sais, mais je me ferais plus baiser sur un coup aussi simple. Quoi.
Ouais. Bien écoute, on va conclure là-dessus. Je vais te laisser pour ta minute de solitude, comme ça tu pourras dire ce que tu veux. En attendant, j'espère te voir à la French Divide. À la French Divide.
Bah, j'étais bien, ouais.
À la Gravel Trobresse, parce que même s'il y a pas mal d'incertitudes qui planent sur mon planning de la rentrée, bah, j'espère bien être là au départ pour faire un épisode spécial et pour te taper une bise quand même.
Ouais, cool. Un bise du coude.
Et oui. Bon, avec Fred, j'en ferai une vraie quand même, parce qu'on s'aime trop pour se faire des bises de coude. Ouais, donc, ouais. Quand même. Mais oui, j'espère bien te croiser. Encore une fois, merci pour le temps. Bravo pour l'audace, parce que l'audace, comme tu as dit, c'est important. La performance, c'est bien des fois, mais aussi l'audace, de faire des trucs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, c'est tout aussi intéressant. Donc bravo pour cette petite pointe d'audace. Et puis à très bientôt donc.
Et écoute, c'est toujours un grand plaisir. Merci à toi et merci à Spotzel pour ce temps. Je dois beaucoup à Spotzel, on en reparlera, mais.
Ah bon? C'est nouveau ça.
Ouais.
Ah bon? Écoute, tu m'expliqueras ça au départ de la GTB autour d'un Morito. Et puis voilà.
Avec plaisir. Super. Je sais pas si le Morito c'est la spécialité locale, mais on va trouver quelque chose.
Ah non, mais j'amènerai le mien, je bois pas de bière, hein. Ça va bien. Oui. J'aime pas ça de toute façon. Donc déjà que je devrais aller en Bretagne, alors si en plus je dois boire de la bière, non, j'emmènerai du Morito et ça ira très très bien. Voilà. La grosse bise, Pat, à plus.
Allez,
à très bientôt, salut.
Donc s'il me reste une minute, je vais en profiter pour pousser un coup de gueule contre la SNCF, puisque certains le savent, mais quand j'ai voulu embarquer pour la French Divide avec mon vélo sous le bras, qui était dans une housse, je me suis fait refouler avec appel des forces de l'ordre, etc., pour m'éjecter du train par un contrôleur au QI proche de zéro et extrêmement zélé. Donc j'ai dû rentrer chez moi, changer de housse, prendre le train 4 heures plus tard, arriver là-bas, remonter mon vélo, réexpédier la housse chez moi. Donc en termes de cramage de CO2, on était pas mal. Donc en ce moment où le vélo est à la mode, on nous parle de mobilité douce, d'écologie, machin, mais on s'aperçoit que la SNCF ne fait rien pour le vélo. Donc il y a une bande de vieux branquignols qui à la tête de ce gros bordel qui fait extrêmement de mal. Donc ils préfèrent bien sûr des places assises à vendre en termes d'espace que des vélos. Mais c'est sûr que si les gens comme on fait le DR prennent le vélo pour monter au départ ou louent des bagnoles pour être sûr de pouvoir arriver là-haut avec le vélo, on va pas y arriver. Donc voilà, vivement la concurrence, en espérant qu'il soit moins crétin que la SNCF et que ça évolue dans le bon sens, puisqu'entre grève, retard et puis refoulement parce que vous avez un vélo sous le bras, ça devient extrêmement pénible. Voilà, c'est tout. Allez, bon ride à tous et puis à bientôt, j'espère. Salut.